c'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra.
Colette.
Bonjour, Bernard.
Bon, je crois qu'on nous a présenté succinctement, mais on va aller un petit peu plus loin. Je suis là, moi, au titre du Festival Léo Ferré de Gourdon. Les auditeurs me reconnaîtront peut-être parce que je vends chaque année les bienfaits du disque à l'occasion du salon. Donc, je ne serai peut-être pas toujours ton interlocuteur. Notre président vénéré, qui est actuellement hors course pour un cassage de jambes, ne peut pas venir. Si donc tu es bien connu aussi de l'antenne, tu as donné plusieurs conférences, tu es une écrivaine, passionnée de beaucoup de choses, mais particulièrement de Léo Ferré, que tu as rencontré et côtoyé pendant de nombreuses années, tu vas nous raconter ça. Tu lui as consacré un livre, Vienne le temps, qui était le résultat d'un travail de maîtrise, et donc je te laisse la parole.
Très bien. J'ai découvert l'œuvre de Léo Ferré quand j'avais 20 ans et j'ai été enthousiasmée par la révolte qu'il y avait dans son œuvre, la sensualité et également l'humour. Et il exprimait tout à fait ce que je ressentais. Or, j'étais une femme et lui avait l'âge de mes parents. Donc c'était relativement surprenant, mais c'était tout à fait ainsi. Et quelque chose que j'aimais beaucoup dans l'œuvre de Léo Ferré, qui me paraissait très importante, c'est qu'il mélangeait tous les niveaux de langage. Donc aussi bien le langage populaire, argotique ou savant. Et moi qui venais d'un milieu ouvrier et qui était à l'université, je faisais des études tout en travaillant, et bien en fait, Léo Ferré était le lien entre mon milieu d'origine et ces études que je faisais. Et ça pour moi était un guide, alors j'ose évidemment pas dire un maître, puisque Léo Ferré était anarchiste, donc ni Dieu ni maître, c'est un peu gênant. Mais enfin, c'est vrai que pour moi, c'était très très important. Et lorsque j'ai fini ma licence de lettres modernes, eh bien, j'ai fait une maîtrise donc sur Léo Ferré. C'était la première maîtrise à l'université. J'ai dû trouver un professeur qui accepte le sujet, parce que c'était une nécessité. Ce n'était pas facile. Et pourtant, on était après 68, il y avait eu les éclatements des universités, et néanmoins, c'était encore très difficile de faire entrer Léo à l'université. Il y avait très très peu de choses écrites sur Léo à l'époque, il y avait juste une introduction de poète d'aujourd'hui, d'Étienne Humble, et il y avait un article d'un journaliste, Calvé. C'est tout. Donc à partir de là, j'ai travaillé vraiment à partir des textes, et j'ai porté le résultat de ce travail à Léo Ferré, à l'Olympia, dans sa loge. Et il m'a remercié, bien sûr, et il m'a proposé de venir assister à l'enregistrement d'un disque. C'était le disque L'Espoir. Et aussi de venir à ses spectacles à l'Opéra Comique. C'était un spectacle tout à fait exceptionnel, très hétérogène et tout à fait remarquable. Et progressivement, en fait, du fait que j'écrivais déjà des poèmes et des nouvelles, le fait aussi que nous ayons un ami en commun a fait que je l'ai suivi pendant une dizaine d'années dans les tournées. Il m'arrivait d'être au pupitre des Lumières, d'ailleurs, c'était pas mon métier, mais on m'avait dit où il fallait que je pousse les Lumières. Et puis je l'ai accompagné donc dans le Maghreb, en Europe, en France bien sûr, et j'allais chez lui en Italie, avec auprès de sa femme, sa troisième femme et ses enfants au fur et à mesure de leur naissance. Et donc, pendant ces 10 années, je l'ai beaucoup côtoyé, puis j'ai pris du recul un peu, parce que pour des raisons personnelles et aussi parce que j'étais écrivain et que c'est difficile d'écrire en étant autant habité par une œuvre. Mais néanmoins, nous nous voyons régulièrement et nous échangeons une correspondance également.
Bon, nous aurons donc des informations de toute première main.
Absolument.
Bon, pour cette première émission, car nous espérons que nous reviendrons chaque mois, nous allons survoler très rapidement, en moins d'une heure, c'est une gageure. Nous allons essayer de survoler un petit peu la biographie de Léo, si tu veux bien.
Oui. Alors voilà, Parler d'une biographie en absolu, ce n'est pas intéressant, si ce n'est que chez Léo Ferré, il y a vraiment une osmose entre son œuvre et sa vie. Pour certaines chansons, pas toutes les chansons, mais beaucoup, des chansons qui jalonnent son existence. Et il ne s'agit pas d'un aspect narcissique de sa part, mais il disait, il avait cette phrase, « Les autres, c'est pas difficile, c'est toi multiplié par eux ». Et Léo, en fait, en disant ce jeu, il va apporter aux gens, il va donc nous apporter des choses. Et les gens s'y sont pas trompés. Si on pense à la chanson la plus connue de Léo Ferré, c'est « Avec le temps ». Et dans « Avec le temps », Léo, il raconte une histoire très personnelle. Hein. C'est la fin d'un amour, c'est douloureux. Mais à la fin de cette chanson, il dit « Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent floué par les années perdues, et l'on se sent tout seul, peut-être, mais peinard. » Et les gens, par cet intermédiaire du « on », ils ont tout à fait été concernés par cette chanson. Pour également justifier cette approche qui n'est pas du tout people hein, de sa vie, Léo Ferré, il a écrit un roman qui s'intitule « Benoît Misère ». On dirait maintenant que c'est une autofiction. Et dans ce roman, il va parler d'une période pour lui très douloureuse. C'est son enfance, lorsqu'il a été mis en pensionnat. On écoutera tout à l'heure une chanson qui concerne cette partie. Mais dans ce roman, qui est paru en 1970, il s'est inventé un double pour supporter l'internat, qui était pour lui vraiment infernal. Et voilà quelques extraits de ce texte. Donc c'est son double qui parle. Je te laisse l'incroyable. Je te laisse une brosse à caresser l'ennui, car l'ennui s'ennuie et il faudra l'aider. Sans l'ennui, il n'y aura plus de métaphore. Et sans métaphore, il n'y aura plus rien qu'un univers glacé dans l'idée de celui qui l'a fait. Ce que je te donne n'appartient qu'aux couleurs, aux oiseaux, au vent, à la mer qui rougit tout là-bas d'un chagrin de cavale. Je te donne demain. Je te laisse l'amour qui se donne et se tait, qui s'enchante à se fondre au bout de la tristesse. Je te laisse l'amour, comme ça, qui s'exaspère à tant d'amour et qui n'est reconnu que par des fous d'amour. Et demain, c'est l'amour. Demain, c'est la vie imagée. Alors j'ai lu aussi ça, parce que il y a, dans l'œuvre de Léo Ferré, il y a en fait énormément de prose. C'était un prosateur extraordinaire, aussi bon que versificateur. Et ça aussi, c'est quelque chose que je m'efforce de faire savoir lors des conférences.
Il faudra, au cours des émissions, revenir sur l'œuvre écrite, voilà. Non chantée, j'entends, non mise en musique, qui est énorme
qui est
et
très
peu,
forte.
Souvent trop méconnue.
Ouais. Et pour revenir à cette histoire de biographie aussi, d'utilisation de la biographie, il y a un texte que Léo a enregistré en 1973 qui s'intitule « Et basta ». Il s'agit de 39 minutes où il parle. Il parle sur un fond musical fait du souffle du vent, percussions et guitare. Et il raconte sa vie. Et il raconte sa vie personnelle et sa vie d'artiste. Et c'est en fait très novateur. C'est une sorte de slam avant que le slam existe. De même que dans Benoît Misère, il faisait de l'autofiction avant même que ce mot existe. Voilà. Donc, sous l'égide de Léo Ferré, qui nous donne l'autorisation d'évoquer sa vie, on va... Alors, un petit rappel de date, hein, avant d'écouter la première chanson. Donc, Léo Ferré est né le 24 août 1916 à Monaco. Ses parents, son père travaille au casino de Monte-Carlo et sa mère est couturière à domicile. Il a une enfance heureuse, très méditerranéenne, fait de sons, de musique. Il entend de la musique parce qu'il y a déjà l'opéra de Monte-Carlo qui existe. Et puis, il y a beaucoup d'étrangers avec toute la musicalité des gens, de toutes les langues qu'il entend autour de lui qui ont certainement eu une influence sur lui. Donc, cette enfance, elle est dans un premier temps heureuse, mais il va connaître une déchirure avec son internat qui commence à 8 ans. Il va aller donc dans une école tenu par des pères des écoles chrétiennes.
On peut même dire internement.
Internement, quasiment, oui. Et donc c'est à Bodighera, c'est en Italie. Il y a des frontières à l'époque, donc il passe la frontière pour y aller. Et il va vraiment là découvrir à la fois le chagrin, la séparation avec sa mère, la solitude. Il va découvrir aussi qu'il n'est pas comme ses petits copains, parce que les petits copains, ils aiment jouer au foot, et lui, bah, il compose des musiques dans sa tête, donc il y a un petit problème. Il va aussi découvrir la duplicité des adultes, puisqu'il y a quand même des prêtres dans ce pensionnat qui ne se comportent pas tout à fait bien. Et donc, on va écouter cette chanson qui s'intitule donc « L'enfance » et qui date de 1964.
Souviens-toi des souliers usés, des vendredis, et le poisson qui se rendait sur la table à midi, et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli. Frais ou pas le maquereau, faut que ça fasse des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mère Larousse, le frangin à rabat comme un flic à tes trousses, et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfance, c'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson toute nue. L'enfance, l'enfance, c'est un jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça de passé. L'enfance. Souviens-toi des frangines qu'avait même pas 10 piges dans la nuit retrouvée. On jouait à se faire la pige, même qu'elles étaient girondes, avec leurs yeux barrés juste en dessous, comme une ombre, comme le phare du péché. Souviens-toi des silences au fond des corridors et ce halètement divin, je l'entends encore. Et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un pays plein de chansons, c'est le remords de la raison, c'est la folie aussi. L'enfance, c'est l'enfer sous le tableau noir, c'est Tahiti dans un dortoir, c'est l'âme de la nuit. L'enfance, c'est un oiseau qu'on a manqué, c'est un chat qu'on a chahuté, et c'est la cruauté. L'enfance, l'enfance, c'est jour après jour quitter l'ombre, et vers la proie et vers le nombre, c'est apprendre à frapper. L'enfance. Souviens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, 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 qui tournait.
Donc dans cette chanson, en fait, où il dit des choses très graves, il le dit de façon extrêmement pudique. Et l'autre chose aussi à remarquer, c'est qu'il y a un contraste entre la violence de ce qui est dit à certains moments, et l'allusion à ce prêtre, et la douceur de la musique. Ce contraste, c'est quelque chose qu'il fera souvent, et on se rend compte aussi qu'en tant qu'interprète, c'était un interprète extraordinaire. À la fin, là, il y a la voix qui se casse et le mot qui n'est pas terminé. Donc c'était vraiment quelqu'un qui, au niveau scénique aussi, bien sûr, était tout à fait remarquable. Alors voilà, donc ça c'était la partie de l'enfance, Et à l'issue de cet internat où il va quand même obtenir ses bacs, bien évidemment, il va monter à Paris pour faire ses études. Et là, il va quand même profiter d'une certaine liberté parce qu'il va rompre avec sa famille. C'était quand même une époque où la famille avait une très grande importance, où il y avait l'autorité du père était très forte. Et donc, il va profiter de sa liberté. Il va même en profiter pour apprendre à jouer du piano en cachette, parce qu'il savait jouer un peu du pipeau, il connaissait le solfège, il avait chanté aussi dans la maîtrise de radio, enfin de Monaco, mais il voulait apprendre un instrument. Ça va lui servir par la suite, quand même.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses parents ne l'ont corrigé pas beaucoup dans sa vocation musicale.
Et non, on peut comprendre les parents au demeurant. Hein. C'est quand même avoir un fils qui veut être... Il voulait être compositeur, hein, d'ailleurs. Il était compositeur, parce qu'il va commencer par écrire de la musique. Alors, Paris, en plus, pour lui, Paris, c'est une ville mythique. C'est mythique parce que c'est la ville de la Révolution, 1789. C'est la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien, comme il dit. C'est aussi la Commune de Paris de 1871, les communards mes frères, dit-il. Il fait très souvent référence à la Révolution et à la Commune de Paris. C'est aussi mai 68, un peu après, mais il va écrire l'été 68. Il va écrire une chanson d'ailleurs, toujours dans la lignée de la lutte de Paris, c'est « Paris, je ne t'aime plus », quand toutes les utopies d'après 68 vont se casser la figure les unes après les autres. Et puis il va écrire des chansons, alors pour le coup sur Paris, comme « Paris canaille »,« Paris paname », qui vont être des chansons qui vont commencer à le faire connaître, et qui sont souvent à plusieurs sens d'ailleurs, avec de l'humour, sous le flonflon de l'accordéon, on trouve des choses tout à fait étonnantes. Et puis Paris, c'est évidemment la ville des poètes également, c'est Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, et du reste ses chansons sur Paris, rendant hommage aux poètes, c'est « J'habite à Saint-Germain-des-Prés », »,« Le pont Mirabeau » d'Apollinaire, etc. Donc Paris, c'est la ville qu'il a le plus chantée, mais on verra aussi que la nature, mais on le verra dans une autre émission, que la nature, c'est également très importante pour lui. Alors, il a 20 ans, hein, là, il a un petit peu plus de 20 ans quand il est à Paris et il va découvrir un peu tout. Et 20 ans, justement, c'est une chanson qu'il a écrite et qui est une chanson intéressante puisqu'elle raconte toute une... Elle date de 60.
Tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul, quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit, et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Ah. Alors, c'est pas encore la période des cabarets, là,
a 20 ans. Ah non, là, il a fini ses études. Enfin, si tu fais allusion à la création de cette chanson en 60, oui. Mais si on suit le jalonnement de sa vie...
Il est encore les études.
Il est dans les études, oui, c'est Quartier Latin, c'est... Voilà. Alors, l'intéressant dans 20 ans, c'est bon, il a 20 ans, mais c'est une chanson type de l'époque, c'est-à-dire des chansons qui devaient durer 3 minutes et qui racontent une histoire. Là, ça raconte une vie. Et, hein, on a 20 ans, mais ça se passe assez vite, quoi. Il y a la lucidité également de Léo Ferré, qu'on retrouve aussi dans C'est l'homme, par exemple, qui date aussi des premières chansons de 60, qui sont tout à fait étonnantes. Non, alors Léo, il a 20 ans, là, bon, il a un peu profité de la vie à Paris, hein, quand même, mais il obtient ses diplômes, bien sûr, et il faut qu'il aille faire son service militaire, parce qu'il était sursitaire. Donc il part au service militaire, il finit son service militaire, et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il se passe que c'est la guerre de 39-40. Donc, il est enrôlé et il devient donc militaire. Et puis, la guerre, elle dure pas très très longtemps, mais c'est l'exode. Il se retrouve avec sa compagnie sur les routes à revenir à pied comme il peut, avec les hordes de personnes. Et il va rencontrer pendant cet exode une femme qui va devenir sa première femme, qui s'appelait Odette. Et il va s'installer à ce moment-là dans l'arrière-pays niçois. Là, il va avoir une ferme et il va avoir des animaux, bien sûr. On sait que les animaux, pour lui, sont très, très importants. Une des premières chansons qu'il va faire, puisque pour rentrer à la SACEM, il faut écrire des chansons, prouver qu'on peut écrire de la musique et du texte. Et justement, elle s'appellera cette chanson « Martha la mule », parce qu'il avait effectivement une mule qui s'appelait Martha. Donc là, ils vont vivre avec un peu les produits de la ferme. Et Léo va également travailler à Radio Monte Carlo. Alors Radio Monte Carlo, c'est une toute jeune radio. Elle date de 43. Et là, il va faire un peu tout à Radio Monte Carlo, le bruitage, le ménage. Il va aussi faire des émissions sur la musique classique, car il est extrêmement savant au niveau de la musique. Et ces émissions sont tout à fait remarquables. On peut les acquérir... de nos jours, hein, actuellement. Donc Léo, à ce moment-là, il a écrit pas mal de musique déjà, mais il va commencer simplement à écrire des textes à cette époque-là. Donc il commence à écrire des textes vers 43, les plus anciens qu'on trouve sont de 43, 44.
Donc l'auteur prend le pas sur la vocation de compositeur.
Alors en fait, il se voulait toujours musicien et compositeur, mais il a compris qu'il ne pourrait pas faire connaître sa musique comme ça. Il pense donc que par le biais des mots, eh bien, il pourra le faire. Donc c'est pour ça qu'il va se mettre à écrire. Il n'avait pas écrit alors. Il va se mettre à écrire, et là, ça va être extraordinaire, puisque l'œuvre de Léo Ferré est immense. Hein. Dans Les Chants de la Fureur, publié en 2013, il y a 1577 pages de texte de Léo Ferré, et c'est incomplet. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va assurer, en plus, dans tous les genres littéraires. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Et avec les mots, il pense qu'il va faire connaître sa musique, même par la petite porte, mais néanmoins. Et en fait, eh bien, il découvrira que ça ne suffit pas, parce que pour cela, il aurait fallu des interprètes. Mais ses chansons sont déjà quand même très personnelles, très singulières. Ça inquiète un peu les chanteurs, interprètes qu'il rencontre à Radio Monte Carlo, qui lui prennent des textes, mais ça tu le sais Bernard, qui lui prennent des textes, mais vraiment au compte-gouttes. Et c'est Piaf qui lui dit, bah, le mieux, ça serait que vous montiez à Paris, chantez vous-même vos textes dans les cabarets. Voilà. Et c'est ce qu'il fera. Et donc là, il va monter en 45, simplement, dans les cabarets. Donc il a presque 30 ans quand il monte à Paris. Et là, il va connaître véritablement, pendant 15 ans, vraiment, des conditions matérielles vraiment très difficiles. Très difficiles. Alors matérielles et aussi morales. Là, il va plusieurs fois songer même à arrêter. Et il est toujours très solidaire d'ailleurs de tous les artistes qui ont eu du mal, bien sûr, il cite très souvent dans ses chansons, Béla Bartok, Mozart, pour ce qui est des musiciens, ou encore Van Gogh pour les peintres. Et il va tout le temps penser à cette difficulté pour les artistes de se faire connaître. Il va leur dédier plusieurs textes comme les poètes ou les artistes. Et il est aussi très sensible à la misère des petites gens. Et il écrit « Madame la misère », « L'opéra du ciel », « Psaume 151 ». Et véritablement, là, ça va être pour lui très, très difficile ces années-là. Sachant que, qui plus est, il était assez timide et il était complexé. Et il avait tendance à se cacher derrière son piano, et ceux qui l'ont vu...
Il commençait déjà à être l'interprète de ses chansons.
Ah ben là, il était l'interprète quand il monte à Paris.
Il cherchait surtout à les proposer à des chanteurs reconnus. Il n'envisageait pas de les chanter lui-même, a priori.
Oui, mais quand il monte à Paris, c'est parce qu'on ne lui a pas pris ses chansons. Et Piaf lui dit le mieux... Alors Piaf lui a pris une chanson, c'est « Les amants de Paris ». Le flamenco de Paris a été pris par Yves Montand, mais à l'époque, il y a très très peu de gens qui lui prenaient. Et donc, c'est pour ça qu'il monte à Paris, et c'est pour ça qu'il se met à chanter. Il chante, malgré sa timidité, en se planquant derrière le piano. Il y a des gens qui le décrivent avec une tenue un peu scénique. D'ailleurs, on voit des photos de lui, hein, on dirait des fois Darry Cold un peu, il ressemble un peu. Alors, il est entre Schubert et Darry Cold à ce moment-là, comme look.
Intéressant,
c'est un peu
comme
bizarre,
synthèse.
Et ces chansons sont déjà très 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 riches en fait, très écrites, très engagées, très à double tiroir. Et ça a déconcerté un certain nombre de personnes. Donc c'est des années de misère. Et il y a une chanson qui symbolise fort bien ça, qui date de 1953 et donc qui est coécrite avec Francis Claude, qui était donc propriétaire de plusieurs cabarets à Paris dans lesquels Léo chantait. On va donc écouter maintenant La vie d'artiste.
Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon pauvre amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste, tu peux remporter le faux nom. Moi, je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, disant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste. Toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche.
C'est vraiment la vie de galère.
Oui, c'est la vie de galère. Alors, cette chanson, il va souvent la reprendre dans les récitals, parce que vraiment, je pense qu'il avait quand même eu du mal à avaler tout ça, et avec des tons parfois très différents. Et c'est là qu'on voit aussi que c'est un interprète tout à fait extraordinaire, hein, parce qu'il y a vraiment des fois où il tape sur le piano et il se déchaîne positivement. Alors... Donc cette vie de galère effectivement fait que sa première femme va choisir de partir et ils vont donc divorcer à l'amiable au demeurant, hein, en bonne intelligence parce que c'est ce qu'ils avaient de mieux à faire. Et puis Léo va continuer sa vie d'artiste comme il le dit dans la chanson. Et il va malgré tout connaître une autre femme qui va là le soutenir bien davantage dans sa vie d'artiste. Et c'est Madeleine et ça va être un second mariage. Et là, il va y avoir une période où il va y avoir une très très grande production basée à la fois sur des chansons d'amour, mais un amour qui est souvent contrarié, bien entendu. Et donc cette contrariété dans ces amours, alors c'est l'amour aussi bien pour l'homme, c'est l'amour pour les bêtes, c'est l'amour en général. Et comme ces amours vont être déçu, si vous voulez, il va à ce moment-là réagir par la révolte, quoi. Donc aussi. Donc l'amour et la révolte vont être ces deux pôles sans arrêt. Et il y a des disques qui s'appellent Amour Anarchie d'ailleurs, hein, où il y a ces deux aspects-là.
Ouais, qui viendra plus tard, ça, après.
Post-68, qui viendra plus tard, oui, 70-71. Voilà. Donc, cet amour et cette révolte vont quand même fonctionner ensemble. Alors là, il va dénoncer, pendant cette période-là, tout ce qui est le consumérisme, la publicité, la télévision, l'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. La morale qui est le prêt-à-porter. Il va dénoncer alors le temps du plastique, la vie moderne. Alors il y a des chansons pamphlétaires, hein, comme « Les temps sont difficiles ». Il y a des chansons qu'on peut qualifier de chansonniers, hein, c'est « Les temps sont difficiles » par exemple. Et il y a des chansons de lutte également. Alors ça rejoint tout un courant, depuis Béranger par exemple, Jean-Baptiste Clément également pendant la Commune. Donc, à la fois, cette utilisation de la poésie comme une arme.
C'est déjà l'engagement. Ouais.
C'est déjà l'engagement, mais l'engagement qui est lié, en fait, à l'amour. Les deux sont liés. Alors, on va écouter, justement, la chanson « À toi », qui est dédiée à une femme, mais qui fait le tour, en fait, de tout ce qui le révolte, de tout l'amour. C'est tout à fait étonnant. Là, on n'est plus dans des chansons à thème unique, mais au contraire dans l'éclatement qui deviendra très vite une des caractéristiques des chansons de Léo Ferré.
À toi, la forêt qui s'élance au ciel comme une verge, les serments naufragés qui errent sur la berge, les oiseaux dénoncés que le chasseur flamberge, les diamants constellés qui fuient les pâles couches, tous les yeux de la rue qui crèvent sur ta bouche, le pavé que tu foules et ma voix que tu touches, les amants accolés muets comme la cire, les culottes des femmes où le monde se mire, les fauves repentis qui rendent des martyrs, le ventre des pendus qui coule des potences, les noces pathétiques où les larmes sont rances, les émigrants qui n'ont jamais de pain d'avance, les mains transfigurées qui règlent la tzigane, Baudelaire et Shakespeare au chevet des profanes, les chevaux condamnés et leur dernière avoine, la voix pour commander à mille couturières, un lit avec le Parthénon comme litière, le catéchisme de la joie, la vie entière, des violons barrissant les complaintes futures, des tonnes de crachats sur la criticature, le vent du large et des bûchers pour les clôtures, des langues pour parler aux chinois faméliques, des poumons pour souffler au ventre des phtisiques, des java pour brouiller les chants patriotiques, le ruisseau qui jouit jusqu'au havre sans trêve, le malheureux, le chien qui meurt, l'homme qui crève, le sang des femmes qui sont mortes sans un rêve, les cheveux élagués qui cherchent des caresses, le remords amical du prêtre qui confesse, les yeux des tout petits reboulants de tendresse, l'orgue de la nature au souffle de violette, les rendez-vous mystérieux sous la voilette, le numéro que tu voulais à la roulette, les portes de secours battant sur les étoiles, les vendredis des Robinson des capitales, la boussole des veuves aveugles sous leur voile, le vain espoir des mitraillés sous la mitraille,
la poitrine qui bat sous les pâles médailles, les Jésus désertant le fruit de tes entrailles, les dentelles flottantes au nez de la misère, le loup blessé à mort quand regarde se taire, le chant du coq et le silence de Saint-Pierre, les cœurs déchiquetés qui parlent aux fantômes, les gens de bien qui ont désintégré la tombe, le capital qui joue au dé notre royaume, et puis le majuscule ennui qui nous sclérose, mon pauvre amour, car nous pensions les mêmes choses, en attendant que l'ange nous métamorphose.
Alors là, c'est une chanson qui mêle à la fois tout, en fait, l'amour, mais aussi l'amour pour les hommes. Donc c'est tout à fait étonnant à ce niveau-là. Hein. Et il va rentrer dans des chansons à la fois très, très tendres et très, très violentes. Il va dénoncer toutes sortes de choses, hein, la torture, le pape Pie XII avec Monsieur Toublanc, il va dénoncer le général Franco,
le sabre et le goupillon,
et le Pinochet, alors dans un hommage à Allende, donc voilà, il y a vraiment, et il rentrait souvent hommage aux républicains espagnols dans plusieurs chansons également. Donc là, il y a vraiment un mélange à la fois l'amour, hein, l'amour et l'anarchie, hein, qui est donc toujours lié dans des chansons effectivement qui vont suivre, mais ça va être assez constant. Alors, il y a entre autres, dans cette période-là, il y a Franco La Muerte, c'est une chanson qui va écrire et qui intervient, il l'a fait en 64, mais elle relate la mort de Grimaud, qui est donc un communiste en Espagne. Le parti communiste est interdit, Franco est au pouvoir, et donc Grimaud est arrêté, et il va être condamné, il va être garrotté. Et Léo écrit donc « Franco la muerte », donc qui est une chanson très engagée.
L'heure n'est plus au flamenco, déshonoré mystère Franco, nous vivons l'heure des couteaux, nous sommes à l'heure de Grimaud. Que t'importent les procédures qui font des ombres sur le mur quand le bourreau bat la mesure. Franco la muerte, t'es marié à la camarde pour mieux baiser les camarades, les anarchistes qu'on moucharde pendant que l'Europe bavarde. Qu'importe si l'Espagne est morte, entends la mort devant ta porte, c'est Grimaud qui te la rapporte. Franco la muerte. Couche avec une Pénélope qui tisse un suaire en bas de l'Europe sur cette Espagne que tu stoppes en attendant qu'elle te chope.
l'important pour toi, c'est que ça tue. Toi, tu fais pas de littérature, t'es pas Lorca, t'es sa rature. Franco la muerte. Vienne le temps des poésies qui te videront de ton lit quand nos couteaux feront leur nid au cœur de ta dernière nuit. Cette nuit de la désirade, vers l'aube claire des Grenades et l'Espagne des camarades, Espagne à la vida.
Plutôt que la moelle. Mmh. Rappelons, c'est pourtant pas si vieux, ça nous paraît heureusement très lointain, mais si la peine de mort est une barbarie en soi, le garrot était particulièrement barbare, mmh, puisqu'il procurait la mort par étouffement, mmh, progressif, mmh, contrairement à la pendaison qui souvent cause la mort par rupture des cervicales.
Mmh. Donc, Léo, il dénonce tout ce qui détruit l'homme au quotidien. Alors, les dictateurs, bien évidemment, mais même le consumérisme, la publicité, la télévision, tout ce qui abrutit les gens. L'embrigadement. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les gens qui pensent en rond ont les idées courbes, dit-il. Donc, ça, c'est vraiment un combat permanent hein, chez lui, et toujours mêlé à beaucoup d'amour pour les hommes, en fait, hein, pour les humains qu'il veut défendre absolument. Donc cet engagement va d'ailleurs lui poser pas mal de problèmes. Hein. Il va être quand même assez souvent agressé sous différentes formes, mais y compris physiquement ou avec des bombes également qu'on amène dans les salles où il chante.
Et ostracisé sur les ondes officielles. Et
évidemment, enfin, avec une censure assez considérable, effectivement. Voilà, donc, bon, on peut pas s'étendre trop là-dessus, mais...
On y reviendra, j'espère, dans une émission ultérieure.
Absolument.
C'est fondamental dans son œuvre.
Il s'est aventuré sur de nombreux thèmes très essentiels qui feront l'objet d'autres émissions. On peut pas parler de l'amour, mais l'amour sans la mort ne serait pas tout à fait l'amour, hein, c'est une phrase de Léo Ferré. Donc... dans une autobiographie, il faut bien parler de la mort. Et Léo, en fait, en fait aussi un thème. Dès le XIIe siècle, les poètes ont chanté la mort et l'amour. Et dans le genre testamentaire, d'ailleurs, est connu. Et Léo a chanté pour Villon ou pour Hutebeuf des chansons qui sont liées à la mort. Et lui-même, il a écrit des textes comme le Testament, Je te donne, Testament phonographe ou Requiem. Ou encore, dans le temps des roses rouges, il dit « Car la roue tournera, plus finira, plus d'une biographie. » Voilà. Dans ce registre, comme dans celui de l'amour, il utilise tous les tons pour parler de la mort, à la fois la mort classique, l'humour noir également, « Quand je fumerai autre chose que des celtiques », l'humour, « Ne chantez pas la mort », ça c'est de Cosimon, « Ne chantez pas la mort », c'est un sujet morbide, les gens du show business vous prédiront le bide. Donc, on va écouter une chanson donc liée à cette thématique, et ça s'intitule « À mon enterrement » avec le groupe pop Les Ouf.
Thank you. à mon enterrement, j'aurai des chevaux bleus, des dingues et des pops, aux sabots de guitare, des chevaux pleins de fleurs des champs, dedans leurs yeux, unissant des chansons de nuit, quand il y en a marre, j'aurai des mômes de passe, ceux que j'ai pas finis, des filles de 12 ans qui gonflent sous l'outrage, des chinoises, des russes, des nordiques remplis, des rues décapitées par des girls de passage à mon enterrement. Et je ferai l'amour avec le croque-mort, avec sa tête d'ange et ses 18 automnes, 12 pour la vertu et 6 mourant au port, quand son navire mouillera comme une aumône à mon enterrement, j'aurai un cœur de fer et me suivrai tout seul sur le dernier bitume, lâchant mon ombre enfin pour me mettre en enfer dans le dernier taxi tapinant dans la brume à mon enterrement. Comme un pendu tout sec, perforé de corbeaux, à mon enterrement, je gueulerai quand même, j'aurai l'ordinateur facile, avec les mots des cartes perforées, me perforant le thème, je mettrai en chanson la tristesse du vent quand il vient s'affaler sur la gueule des pierres, la nausée de la mer quand revient le jusant et qu'il faut de nouveau descendre et puis se taire à mon enterrement. À mon enterrement, je ne veux que des morts, des rossignols sans voix, des chagrins littéraires, des peintres sans couleur, des acteurs sans décor, des silences sans bruit, des soleils sans lumière. Je veux du noir partout, à me crever les yeux et n'avoir jamais plus qu'une idée de voyance sous l'œil indifférent du regard le plus creux dans la dernière métaphore de l'offense. À mon enterrement.
L'amour sans la mort ne serait pas tout à fait l'amour, disait Léo sur scène. Alors pour finir quand même sur une note plus gaie, donc
mais l'amour... Les artistes ne meurent jamais, ils sont immortels.
Certes. On va repartir sur quelques chansons d'amour qu'il a écrites. Bien sûr, il y en a beaucoup. Alors, il y en a des classiques comme Chansons pour elle, Les temps chimériques, Je t'aime, par exemple, Ça te va... L'amour aussi plus apaisé, qu'il va dédier davantage à sa troisième femme. On est toujours à la deuxième tout à l'heure, sa troisième femme, avec des chansons comme La lettre ou L'espoir, par exemple, donc la troisième femme avec qui il aura 3 enfants. Et bien entendu, la dimension de l'amour, c'est aussi l'érotisme, et Léo va développer tout un courant dans ce domaine. Donc il y a à la fois la banlieue, par exemple, cette blessure, ta source, ton style, avec des mots crus, des positions assez explicites. La censure, évidemment, bloquera toutes ces chansons-là. Curieusement, la censure a parfois laissé passer des chansons pourtant très explicites, comme Joli Môme. Il est vrai que chanté par Gréco, ça passait mieux que par Léo, mais il y a des images érotiques très fortes. Et puis, bien sûr, une chanson également emblématique de cette période, c'est une métaphore érotique, c'est Extra, qui va être sur toutes les ondes à l'époque. La censure n'a pas dû tout à fait comprendre. Et ça date de 69, et là on va avoir, grâce à des métaphores, des choses tout à fait savoureuses. On écoute cet extra.
Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès, et dedans comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra
un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui prie. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès, et dedans comme un matin gris une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra.
Extra. C'est un chant d'amour et c'est un slow d'enfer en plus.
Absolument.
Les couples se forment, c'est inévitable. Je disais que les artistes ne meurent jamais, et a fortiori à Gourdon, où il est resté très cher, puisqu'il il y a vécu de 1963 à 1968. Et le 9e festival Léo Ferré aura lieu du 18 au 21 juillet prochain. Donc il sera plus dans toutes les mémoires, dans tous les cœurs, dans toutes les oreilles, avec de nombreux jeunes interprètes qui perpétuent l'œuvre. Donc nous donnons rendez-vous déjà pour une prochaine émission, début juillet, et puis notre président, j'espère rétabli, viendra parler du festival. Donc je te remercie infiniment, Colette, de ta science et de ta sympathie proverbiale. Et nous nous disons à bientôt.
À très bientôt.